RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. C'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Yoann Durand, le maître Yodu, la tête de l'équipe de France. La référence du running en France. Pas beau ça? Quand j'ai écrit ça, je me suis dit ouais, ça le résume bien.
Ouais, tous les jours tu me rajoutes un nouveau, une nouvelle, tu me valorises encore.
Surtout
plus.
Je suis plus sympa quand t'es en studio.
C'est vrai, t'as parce que tu sais que l'entraînement va reprendre de ton côté et tu commences à m'amadouer.
Exactement. On remercie toute la communauté pour le soutien et la fidélité. RMC Running continue de grandir grâce à vous. On a un épisode exceptionnel aujourd'hui à plus d'un titre. On va recevoir une championne qui vous fera vibrer aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Alice Finot, triple championne de France du 3000 steeple, record woman de France. Alice qui a terminé 5e des mondiaux de Budapest l'an dernier. Elle va revenir avec nous sur ce grand moment, elle va raconter son histoire atypique et elle va vous donner ses précieux conseils. On sera également avec Aurélien Tiercin, la voix de l'athlée sur RMC, qui va nous rejoindre. La séance d'entraînement, Johan, est très attendue.
Ah, dis-moi tout.
Étape historique dans l'histoire d'RMC Running, puisque lundi 22 avril, on va annoncer les personnes, les participants, les personnes retenues pour notre tentative de record du monde à Charletti le week-end du 8 juin. On va tout réexpliquer, mais la séance, elle sera simple. Comment se préparer à une vraie course de demi-fond, un 3000, la distance qui est demandée à chacune des personnes retenues.
Exactement, et là ça va pas être évident, que c'est pas quelque chose d'ordinaire quand on est coureur, soit de marathon, soit de route. Voilà, le 3000 c'est pas évident.
En plus t'auras une spécialiste
face. Et on aura une spécialiste pour en parler,
ouais. Voilà.
Je pense qu'on va plus lui laisser la parole.
Alice va nous donner tous ses conseils. Et puis le bon plan matos du jour, c'est G-Heat, la marque de référence sur les vêtements chauffants et rafraîchissants. On vous racontera tout ça aussi, un magnifique cadeau. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets. On part sur une course à obstacles sur le tartan.
J'aime courir, j'adore courir.
Alice Finot, ligne droite opposée. Quelle superbe foulée.
La dernière de la rivière là pour Alice Finot.
Oui.
Oh là, on a volé. Oh là.
Et là, elle a du serin aussi bien en plus.
J'ai fait vraiment de tous les sports étant jeune. Du ski, du snowboard, du basket, du handball, du golf, de la course à pied, de l'équitation.
Mais qui remporte brillamment. Voilà, elle le voulait ce titre.
Finot coming around the outside, trying to challenge the two Britons.
Sachant que je suis une athlète qui a un gros finish. Donc j'ai pas besoin de partir au train.
Alice Finot qui est en train de fournir son accélération.
9-06-15, record de France. Record de France pour Alice Finot. 5e de la finale mondiale, Alice Finot.
J'ai plus confiance en moi, je sais que je peux faire encore de grandes choses.
Alice Finot can't believe it. Gold, silver and bronze for Britain, France and Britain.
Non, moi j'ai pas de limite. Je les cherche encore.
J'ai dépassé les limites.
Elle n'a pas de limite et on espère qu'on le vérifiera à Paris. Alice Finot en direct avec nous en studio à Paris. Salut Alice.
Bonjour.
Et on profite que tu sois là parce que Yodu, elle file tout de suite en
direct dans la cape. Tu l'as capté, crack.
Hop, on l'attrape au bon moment.
Entre l'aéroport et la gare.
Bon, t'es dans quel état d'esprit d'ailleurs à quelques heures de ton départ en Afrique du Sud? Comment on est avant de partir en stage quand on est un athlète de haut niveau, Alice, alors?
Je suis super excitée de repartir en stage. Je sais que c'est un endroit qui me correspond très bien pour préparer dans ma progression sur steeple. J'ai hâte de retrouver l'équipe de France qui est déjà là-bas depuis une bonne semaine, je crois. Voilà, c'est un endroit que je connais et je sais que ça me fait monter en puissance. J'ai fait les choses calmement cet hiver parce que j'avais le luxe d'avoir validé les minima l'année dernière. Donc ça me permettait d'avoir une autoroute dans laquelle j'ai pu agrémenter petit à petit de ce dont j'ai besoin pour monter en puissance. Donc là, je sais que quand je monte dans l'avion, je commence un roller coaster jusqu'à la première semaine d'août 2024.
Et voilà, donc ça là, c'est le début de la grande aventure.
Exactement.
Finalement. Magnifique. On accueille Aurélien Tiercin également, la voix de l'athlète sur RMC. Salut Aurél.
Salut les amis.
Et lui, il était aux premières loges quand tu es allé chercher le record de France et cette finale, donc 5e des mondiaux à Budapest. On en parlera. Vous connaissez Johan et Alice ou pas du tout d'ailleurs?
On n'a jamais fait de stage en commun ou de sélection en commun, donc pas trop. Ouais.
Comme ça, de nom quoi.
Oui, de nom, mais après... Elle fait partie de la nouvelle génération, un peu montante. Moi, je suis plutôt de l'ancienne génération, un peu descendante.
Un peu vieillissante.
et après, on ne fréquente pas trop les mêmes spots parce que c'est vrai qu'elle a fait vraiment de la piste et de la salle. Donc, c'est beaucoup Afrique du Sud ou Portugal. Quand nous, c'est plus Kenya et Font-Romeu. Donc, après, ça peut arriver qu'on se croise de temps en temps. Ouais.
C'est important ce qu'Alice disait, parce que là, l'aventure des Jeux démarre pour elle vraiment, d'aller dans un lieu qu'elle connaît déjà, d'avoir des repères et de ne pas tester des choses à ce moment-là.
Surtout, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est déjà qualifié aux Jeux Olympiques. Mmh. Donc effectivement, tu peux planifier ta saison de façon un petit peu plus sereine que si tu ne l'es pas, et te mettre dans une bulle où tu as tes habitudes, tes repères, et où tu sais que ça fonctionne. C'est sûr que là, ça ne sert à rien d'aller mettre un coup de poker et d'aller s'entraîner au Kenya ou à Font-Romeu quand tu sais que l'Afrique du Sud, bah, ça marche pour toi, ça fonctionne, et c'est bien comme ça. Ouais.
Alice, on démarre toujours nos podcasts par cette question. Elle est très simple. Pourquoi tu cours, Alice Fino, alors ?
Parce que ça me permet de me sentir libre et vivante.
Voilà.
Plus que l'équitation.
Ouais, parce qu'on en parlera. Ouais, tu avais deux sports de prédilection dans ta jeunesse. Ouais. Ta maman était cavalière professionnelle, d'ailleurs, je crois.
Professionnelle, non.
Ah, pas professionnelle. Non. De haut niveau, alors ? À bon niveau.
Grande amatrice et éleveuse de chevaux.
Ah, en plus, donc il y avait les chevaux à la maison. Ouais. Tu as pratiqué les deux disciplines et puis ensuite, tu as un peu arrêté l'athlète, on va le raconter, mais tu t'es remis à fond et désormais, tu es une athlète qui représente très bien les couleurs de l'équipe de France. Tout de suite, on passe à ton CV de coureur.
RMC, le CV de coureur.
Est-ce que tu peux nous rappeler ton âge, Alice ?
33 ans.
Et tu cours depuis que tu as quel âge ?
Depuis que j'ai couru avant de savoir marcher.
Ça, c'est rare.
C'est la meilleure réponse.
T'imagines ? Tu cours combien de fois par semaine ?
Quasiment deux fois par jour.
Tous les jours ?
Non. Sans...
Ok. Ça représente combien de kilomètres en moyenne par semaine ?
Cet hiver, jusqu'à 135, c'est le maximum que j'avais fait. Et là, quand je fais 105 kilomètres, ce qui va être à peu près ma moyenne pour la préparation steeple, j'ai déjà l'impression que je cours beaucoup moins, alors que c'est quand même un kilométrage conséquent.
Ouais, parce que 100 bornes pour du steeple, ça fait beaucoup, c'est un gros volume, Yodu.
Ouais, non, mais c'est ce que font les filles aujourd'hui. C'est vrai que le steeple féminine, c'est quand même 9 minutes, 9-10 minutes de course, donc effectivement, il faut faire des bases foncières assez élevées. Et après... 120, c'est ce que font les filles qui font du 3000, 5000 aujourd'hui. Hein. C'est pas choquant. Hein.
Question marrante avec toi, est-ce que tu as des records perso dont tu es fier ?
Tous.
toutes les distances. Bon, on pense surtout à celui du steeple en plus en finale des mondiaux. Ça doit être un souvenir exceptionnel. Quoi.
Ouais, bien sûr. Ouais. 9,06, oui, c'est conséquent. Ça représente beaucoup pour moi. C'est le troisième meilleur temps européen de tous les temps. Donc ça a une grande valeur.
La dernière course disputée, c'était récent, je crois. C'était quand ?
C'était il y a un peu plus de 24 heures.
Ouais. Un 10 km
à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah,
En pèlerinage.
Ouais. avec du vallonnement.
Pèlerinage avant de repartir.
Du vallonnement, quoi. Là, c'était...
Ouais, avec pas mal de dénivelé, ouais. Avec des pavés, de la pluie, etc. Donc, on était en Galice, il n'y a pas de doute.
Quelle sera la prochaine course disputée, alors ?
À mon retour d'Afrique du Sud, je vais faire un 5000 mètres. Pour que quand je repasse sur 3000, ça paraisse un peu plus court.
Ouais, t'as raison, c'est une bonne tactique.
C'est vrai, non mais c'est ça.
Ta séance d'entraînement préférée ?
Une VMA avec des haies. Une bonne VMA, un bon volume entre 6 et 8 km et des haies à passer.
Et la séance que tu détestes ?
Je les aime toutes.
Ah, même le footing de récup, même le renforcement musculaire, tout ça, ça te plaît ?
Ouais, le footing de récup où je suis pas capable de courir à plus de 4,45 parce que je suis claqué de la veille. Bon, c'est pas agréable, mais on sait qu'il est nécessaire.
Alice Fino, donc en direct avec nous dans RMC Running cette semaine. Donc on l'a dit, on est excité, on est pressé d'être à Paris aux Jeux Olympiques et on a hâte de te voir justement, de soutenir cette équipe de France d'athlés. Bah, démarrons peut-être avec toi Aurélien, parce que je le disais, tu y étais à Budapest l'an dernier pour ces mondiaux. Un peu morose, on va pas se mentir, pour l'équipe de France, mais Alice, ça fait partie des éclaircies. Hein. C'est un des moments où on a vibré sur cette quinzaine. Hein.
Bah, exactement. Et bah, alors, malheureusement, on n'a pas le commentaire en direct parce que, à force d'avoir un zéro pointé, on me faisait plus trop confiance quand je disais attention, faut faire attention à la prochaine athlète, au prochain athlète. Et Alice, en plus, moi, une de mes premières compétitions, c'était à Toruń en 2021. Donc on savait qu'il y avait des belles surprises à la clé parce qu'elle était vice-championne d'Europe en salle à l'époque en Pologne et au Mondiaux de Budapest. Alors ça commence très lentement, entre guillemets évidemment, par rapport à la Bahreïnie et aux Kenyans qui partent devant. Alice qui est quasiment en queue de peloton pendant toute la course. Et un peu à l'image de sa carrière, finalement, c'est à la fin que ça s'emballe. Et un dernier 400 en 1.06, si je ne dis pas de bêtises, Alice, avec les barrières
1.07.
Ouais, j'ai été un peu plus rapide. Et non, mais un dernier tour de folie, ouais. C'est quasiment comme dans un rêve. T'avales la concurrente juste devant, puis celle d'après. Et alors, c'est un top 5, ça veut quand même dire quelque chose au niveau mondial, première européenne, et puis record de France à la clé. Donc c'était quand même des émotions assez particulières. En plus, tu l'as dit, dans des championnats du monde où les belles performances des Français, en tout cas les belles surprises, sont assez rares. Puis en plus, ça fait deux fois que je dis belles surprises, mais effectivement, c'est de moins en moins une surprise. Oui. Parce que quand tu regardes les records perso, Alice, sur 1500, 3000, Stiple, 10 km, ça date tous de l'année dernière, de cet hiver pour le 10 km. Donc c'est finalement de plus en plus logique de l'avoir à ces places-là au niveau mondial.
Et je trouve que pour revenir à cette finale donc, du Stiple à Budapest, ça dit beaucoup de ton caractère. Parce que tu savais comment allait se dérouler la course, mais tu as eu la force de caractère de te dire « moi, je suis mon plan, et quoi qu'il arrive, je remonterai à la fin ». Et c'est ce qui s'est passé, en fait.
Ah, bien sûr. Je pense que c'est... Il y a peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'aurais sûrement pas couru de la même manière. C'est parce que j'apprends à me connaître, et j'apprends surtout à me faire confiance, et puis à savoir où sont mes forces et mes faiblesses. J'ai fait une course qui était à mon image ce jour-là. Même si deux jours avant, enfin, en qualifiant en semi-finale, je pensais déjà faire un all-in. Et puis en fait, quand tu t'assois et que tu regardes un peu tes cartes, tu reconsidères un peu la course que j'avais pas fait l'année d'avant à Eugene. C'est pour cette raison que c'est important d'avoir de plus en plus d'expérience et de se prouver un peu où sont nos marges et nos limites. Et en faisant cette course à mon image, j'ai pu faire parler ma meilleure version de ce jour.
Voilà, donc tu as sorti en tout cas ta meilleure performance. Et d'ailleurs, le résultat était au rendez-vous avec une cinquième place. On ne se rend pas compte, mais sur des distances pareilles, terminer cinquième aux mondiaux, ça place un athlète.
C'est le chrono aussi qui parle à 9-0-6. Là, c'est vraiment un chrono monstrueux, tout simplement. Et c'est la façon dont elle a couru aussi qui laisse envisager. Parce que là, elle le fait en finale avec une série dans les jambes. Avec le stress, mais effectivement, c'est pas dans une course régulière au train avec une wave light dans un meeting à Monaco, tu vois. Donc, effectivement, il y a cette performance, elle est perfectible en plus, c'est-à-dire qu'il y a moyen qu'elle fasse encore mieux. Mais ce qui est impressionnant, c'est le dernier tour. Ça, c'est enfin une 7 sans barrière déjà chez les nanas, c'est costaud, mais alors une 7 au steeple, c'est monstrueux. Ouais.
Ouais. Toi qui as connu comme ça le demi-fond, parce que tu fais du 5000 notamment et du 1500 aussi,
1500,
au départ,
5000,
c'est osé quand même d'avoir une stratégie comme ça, de laisser partir les premiers devant et puis de se dire, quoi qu'il arrive, je remonterai comme je peux et puis je gagnerai des places.
Ouais, mais c'est vrai que chez les filles, ça a tendance à toujours partir un petit peu vite. Chez les garçons, les courses sont souvent tactiques. Chez les filles, il y a moins de calcul. Les Kenyanes partent souvent devant et que ce soit sur le steep ou sur 5000, ça part toujours fort. Chez les garçons, c'est toujours relativement crescendo. C'est souvent le même profil de course avec un premier tour un petit peu plus, une première partie de course assez lente, puis ça se replace et puis ça finit avec un emballage. Chez les filles, ça part vite et effectivement, il faut avoir la présence d'esprit d'avoir un plan, on en parle souvent, mais avoir un plan A et un plan B et avoir vraiment son plan de course et se dire voilà, moi mon atout c'est de finir vite, j'ai déjà couru les séries, elles m'ont déjà peut-être un petit peu fatigué, je vais partir prudemment et progressivement je vais relancer et je vais remonter les filles. Et d'un point de vue mental, on sait très bien que quand tu es dans une logique où tu rattrapes tout le monde et que tu finis fort, là t'es inarrêtable. Donc il faut jouer en fonction de ses atouts et de ses qualités.
Quand tu acquiers la certitude que tu vas disputer les Jeux, Alice, l'idée globale de la saison, c'était quoi ? C'était justement progresser sur ses points faibles et être capable de rivaliser le jour J d'entrée avec l'allure des filles de tête, ou c'est d'accentuer tes points forts ?
La philosophie, c'est quand même toujours de travailler les points forts. Après, on arrive à un niveau où on a tellement tout potentialisé que les points faibles aussi, il faut travailler pour avoir les curseurs au maximum, élevés au maximum et de manière homogène. Et c'est ce qu'on fait, hein. Mon point faible, c'est quand même le train et partir sur un rythme de 3, 3,02 au 1000 et de le tenir toute la course. Je suis capable de faire un gros dernier tour, ce qui fait une moyenne de 3,02, mais ça n'a pas été le rythme
du début à la fin.
Donc ce qu'on travaille en fait, c'est déjà ce qu'on a fait après les championnats du monde de Eugene, et ce qui nous a permis aussi de courir plus vite à Budapest, c'est de toujours abaisser ce rythme de croisière que je dois tenir, mais de manière à toujours avoir un kick final.
te rendre de plus en plus à l'aise à des allures rapides. Quoi. C'est ça le but. Et conserver le kick à la fin pour aller chercher des places intéressantes. Revenons tout de même sur ton histoire. On l'a dit, donc du sport dès ta jeunesse, un environnement autour de l'équitation, puisque ta mère était passionnée. Il y avait des chevaux chez toi, donc tu l'as pratiqué à haut niveau aussi. C'est un sport qui te passionnait. Mais on t'a détecté rapidement, comme la plupart des grands athlètes français, grâce au cross. Hein. C'est-à-dire que dès que tu t'es mis un peu au cross, là, t'as vite parfait. On s'est dit, oula, là, il y a du talent, quoi.
Bah, je crois que c'est ce qu'on fait faire aux collégiens. Hein. Tous les collégiens, on fait un petit peu de VMA en sport. Et puis, ceux qui sortent un peu du lot, on les envoie faire le cross. Et puis,
C'est ça. Hein, tu te reconnais.
Ceux qui veulent du chocolat chaud à l'arrivée, au cross.
Exactement. Ouais. C'est ça, c'est comme ça que ça part. Et puis,
voilà.
Et ensuite, donc, tu fais école d'athlète et tout. Tu fais quand même un peu d'athlétisme pur et dur, quoi.
J'ai été dans un club de mes 13 à 17, 18 ans, un truc comme ça. Et c'est ce qu'on appelle l'école d'athlète, non ?
Ouais.
On fait du triathlon, donc un peu de lancer, un peu de saut. Et puis, ils me mettaient sur 1000 mètres. J'ai peut-être fait un 800 mètres et puis quelques crosses. Mais en fait, je faisais tellement de sport que je n'allais pas aux entraînements et j'allais aux compétitions d'athlète. Et puis, mes entraînements, c'était l'équitation, c'était le basket, c'était l'escalade, etc.
Ah, il y avait d'autres disciplines à côté aussi.
Ouais. Ouais.
Ok, ouais. Ouais.
Donc,
ça fait beaucoup.
J'étais inscrite à l'athlète comme j'étais inscrite à beaucoup de sports, en fait.
Ouais.
Aujourd'hui, on parle de l'athlète parce que c'est le sport où je suis revenue, mais ça se trouve, on aurait parlé du basket.
Et pourquoi pas le basket 3-3 ou peu importe, ou le basket tout court, ouais, on aurait pu te voir dans différentes disciplines. Ouais. C'est... Ou l'équitation.
Ouais, mais
et pourquoi pas le pentathlon d'ailleurs ? Ça aurait fait ça peut-être.
Ah bah voilà.
Bah ouais, c'est vrai. Hein,
la précarrière au penta.
Ça ressemblait donc à.
Mais il n'y a plus l'équitation.
J'ai été beaucoup au sport d'hiver aussi, donc ouais, ça fait.
Ah le ski aussi.
Ça faisait sens.
Ah voilà, donc ça fait voilà. Tu vois Aurélien, on aurait pu l'inscrire un peu partout.
Ouais, bon bah alors non, on va la garder quand même parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué.
Aurélien le pauvre, à chaque fois qu'on le reçoit, il déprime. Il nous dit très inquiet. D'ailleurs, on en parlera de la pression qu'il y a sur vous qui êtes membre de l'équipe de France d'athlé. Précisons aussi qu'à côté de ça, tu mènes des études brillantes, des études d'ingénieur. Tu es d'ailleurs ingénieur, ensuite tu en as fait ton métier. Tu as délaissé un peu justement l'athlétisme et toutes ces compétitions. Et puis tu t'y es remis un peu par hasard comme ça à Taïwan, une histoire complètement folle d'ailleurs.
Ouais, donc j'ai été étudiante en ingénierie jusqu'en 2015 où j'ai été diplômée. L'année où je fais aussi mon dernier échange à l'étranger, où j'ai été pendant 6 mois à Taïwan, où je rencontre mon compagnon, qui lui faisait aussi un échange, il est espagnol. Et il me propose de participer à un semi-marathon à Taïwan.
Pas et entraîné, rien.
Je venais de reprendre le footing, ça faisait 4 mois que je faisais un peu de footing.
Ok.
Vraiment pour le plaisir. J'avais racheté des baskets et je les rechaussais. Et puis, comme j'aime beaucoup les défis, et que je voulais impressionner ce garçon, j'ai dit ah, ok.
Une bonne motivation. Ah ouais. Voilà. Et du coup, tu te classes bien et c'est ça qui te fait prendre conscience que tu as envie de t'y remettre.
Alors, je gagne dans ma catégorie en, attention, 1h41.
Ouais.
On dirait que c'est la météo.
C'est ça.
Mais le fait de remonter sur un podium, en fait,
ça
m'a stimulé. Ouais. Et j'ai voulu m'optimiser de nouveau. Et en fait, mon leitmotiv, c'est ça, c'est à chaque fois d'optimiser quelque chose pour devenir meilleur athlète.
Parce que c'est la particularité de ta carrière. On a des athlètes qui sont découverts très tôt et qui ont une carrière classique, entre guillemets, comme Johan. C'est-à-dire que Johan, tu as fait tous les échelons. En fait, toi, tu as fait l'équipe de France Espoir. Ensuite, tu es monté progressivement
sur
les distances. Junior aussi, attention, tu avais l'équipement très tôt. Magnifique. Aurélien, c'est ce qui dénote un peu avec Alice, c'est que effectivement, je crois que sur ces premiers championnats de France, tu te retrouves face à des filles qui ont 20 ans, 21 ans, alors que toi, tu as déjà 27, 28, 29 ans. Quoi. C'était la particularité de ton histoire à toi, Alice. Quand tu reviens comme ça sur 1500 ou 3000.
Ouais, quand je fais mon premier championnat de France, c'était en 2018 sur 1500 mètres. Et là, cette année-là, oui, j'avais 27 ans.
Voilà.
Et je fais troisième, ouais.
Donc Aurélien, c'est la particularité d'Alice quand même.
Oui, personne ne l'avait vu venir. Alice le dit elle-même, elle avait arrêté dans sa tête et tu reprends un peu par hasard. Donc forcément, quand elle est arrivée, ça a étonné tout le monde. Et puis c'est vraiment à Toruń après que ça a explosé. Mais bon, en France, voilà, trois fois championne de France sur 3000 steeples, deux fois championne de France sur 3000 en salle, ça devient la patronne de la discipline. Alors aussi, on est dans une ère où l'athlète féminin en France est un peu plus désert, donc en plus quand il y a une tête qui dépasse, on la remarque rapidement avec une personnalité aussi un petit peu à part, on peut l'entendre. Alice, t'es sûr de là où tu veux aller, de ce que tu veux faire, de ce que tu veux mettre en place. On l'a vu pendant la finale à Budapest, mais voilà, c'est clair que ce profil déjà 33 ans et performer autant, avoir tous ses records sur les derniers mois, c'est hyper, hyper ambitieux et hyper intéressant pour l'année qui vient et pourquoi pas même pour celle à venir. De l'année prochaine, t'as des mondiaux encore à Tokyo en 2025, donc voilà, c'est encourageant.
Parce qu'on peut le voir comme un avantage, c'est-à-dire que toi, tu es retourné dans le haut niveau avec une certaine maturité. C'est-à-dire que tu connaissais la vie, tu avais déjà eu un métier, etc. Donc une force de caractère supérieure à tes adversaires, par exemple. Ça, c'est un vrai point fort, j'imagine, quand on est athlète de haut niveau.
Ah ouais, pour moi, j'avais un sac à dos rempli. Et je sens que, à 30 ans, dans la tête des staffs en France, de l'athlétisme en France, on a l'impression qu'à 30 ans, on est fini.
C'est une idée reçue qui circule encore.
Alors moi, je me suis rendu compte que j'étais vieille depuis que je suis comme vous courir en France. Alors que, j'ai l'impression d'être jeune.
Il y a presque 40 ans, le pauvre.
non, 27.
27, c'est ça.
Non, mais c'est vrai. Et depuis 30 ans, j'ai tous mes curseurs au maximum. Donc ça veut dire que j'ai la sagesse, j'ai la performance sportive, j'ai l'expérience. Et tout ça, c'est aligné. Alors que peut-être qu'à 22 ans, j'avais la capacité de récupération et la force musculaire au max, mais je n'avais pas cette sagesse, cette intelligence, cette possibilité de monter mon projet, de m'entourer des bonnes personnes. Et du coup, en fait, cette capacité physique, elle n'allait pas emmener tous les curseurs vers le haut. En fait, elle allait toute seule. Et puis, ça allait être dur. Alors que maintenant, j'ai réussi à tout élever à un niveau où je suis équipée. J'ai dans mon sac à dos plein d'outils et plein de personnes qui me permettent d'aller où je veux.
Autre avantage, tu n'as pas cette usure mentale de ceux qui passent 10 ans sur un circuit mondial et qui galèrent. Enfin, j'imagine surtout sur les distances de piste comme ça, mais un peu sur toutes les distances. Mais il faut. Toi qui as une carrière très longue d'ailleurs, il y a des moments où ça doit être difficile mentalement aussi de se remobiliser et de repartir au charbon tous les jours, quoi, Yoann.
Ouais, c'est ça. C'est que, comme tu l'as dit, tu as une usure mentale et une usure physique aussi. Hein. Tu le sens quand tu as. Quand t'as 15 ans de haut niveau à faire tout le temps la même chose et à t'entraîner 150, 160, 180 km semaine, forcément t'as une usure qui s'installe, t'as une lassitude. C'est pour ça qu'il faut toujours se challenger avec des nouveaux défis. Moi, c'est pour ça que je suis parti sur la route à 30 ans, c'est que j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la piste et je trouvais.
Il y a 30 ans, t'étais vieux du coup.
Et voilà. Non, mais je trouvais plus de levier. Tu vois, j'avais fait 15 ans de piste, 15 ans de 1500, 5000 mètres à faire les mêmes séances, les mêmes programmations de saison, la salle, le cross et la piste. Et à un moment donné, à 30 ans, je me suis dit voilà. Enfin, moi, pour le coup, j'avais l'impression de plus progresser sur la piste et de prendre moins de plaisir. Donc, je me suis dit, je vais basculer sur un nouveau challenge. Et donc, je suis parti sur la route. Mais Alice, elle, c'est l'effet inverse. Elle a pas connu tout ça. Donc, elle arrive sur le tard. Mais c'est vrai que c'est étonnant de voir une personne comme ça à 33 ans battre ses records. Mais c'est vrai que quand tu regardes l'histoire, c'est comme Nico Navarro qui arrivait un peu de nulle part, qui a 27 ans, 28 ans, on le connaissait pas. Et aujourd'hui, c'est le meilleur marathonien, l'un des meilleurs marathoniens français.
Ouais. Est-ce que c'est dur de se faire une place dans l'équipe de France quand on arrive un peu sur le tard comme ça, qu'on n'a pas eu le parcours classique, Alice ?
Ça étonne. Ouais. Et puis, moi, j'avais cette volonté de montrer que j'avais ma place. Et puis surtout qu'on pouvait faire les choses différemment, mais les faire tout aussi bien, voire mieux. Et je pense que c'est juste une histoire de temps. On ne fait pas bouger les lignes du jour au lendemain, hein, que ce soit au niveau national, systémique, politique. Donc, moi, je suis bien consciente de ça. Hein, et ça, c'est mon expérience en école, en entreprise, où je suis patiente et je suis sûre de moi. Et je suis convaincue que quand on fait les choses bien, le bien finit toujours par triompher. Et du coup, au début, je sais que j'ai étonné. Et puis maintenant, j'ai ma place.
Parce que ça a fait aussi partie d'une motivation supplémentaire pour toi au début de prouver, déjà de te prouver à toi que tu avais le profil pour être une athlète de haut niveau et ensuite prouver aussi à l'environnement fédéral que tu méritais ta place.
C'est surtout qui a influencé aussi le public, les Français, les Françaises qui auront peut-être mon âge, des femmes qui voudront faire des choses comme ça et qu'elles se disent nos limites, moi aussi. Quoi. Ouais.
La difficulté d'Alice, c'est qu'elle n'était pas en France, donc du coup, a dû gagner. Elle était hors circuit fédéral, personne ne la connaissait, les athlètes des fois on ne connaissait pas non plus et donc du coup elle a dû gagner une certaine légitimité en disant voilà, moi j'existe, je suis française, j'ai mon projet en Espagne mais je veux montrer qui je suis. Et effectivement le parcours a pas dû être simple. Ouais.
Parce que justement c'est la spécificité pour toi, donc Yodu l'a dit, mais donc il y a ce stage et à Taïwan, tu rencontres ton compagnon, tu vas t'installer ensuite en Espagne. Et là, tu trouves l'environnement idéal pour t'accomplir, quoi. Les conditions d'entraînement, la météo, mine de rien, ça compte. Et puis le cadre, tout un, tout, tout, ouais, tout s'imbrique.
La météo, c'est pas terrible, hein, Benoît, je crois.
Ouais, enfin, c'est peut-être mieux qu'à Roubaix ou à Lille. Tu vois, c'est ça le truc. Tout s'imbrique et tu te dis, bah, c'est là que j'ai envie d'être et que j'ai envie de m'entraîner, en fait, Alice.
Ouais. Ouais, ouais. Et puis, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger toute ma vie.
Ouais.
J'ai beaucoup travaillé à l'étranger, fait des stages à l'étranger. Et j'ai toujours aimé ça. Et à chaque fois que j'ai eu des opportunités, je repartais. Parce que je sens que quand on est dans un autre pays, en fait, on est dans un environnement avec des codes que l'on ne connaît pas et qu'on peut se permettre d'être qui on veut être. Et en fait, il n'y a personne qui m'a posé de limites, qui m'a dit « ça va être dur, tu ne peux pas le faire ». En fait, je suis arrivée dans un environnement…
Il n'y avait pas de conditionnement mental. Quoi.
Exactement. Ouais. On ne m'a pas mis dans une case. Et puis, je me suis dit « j'arrive à un endroit où je peux être qui je veux ». Et puis, j'ai juste à me servir dans ce que je trouve autour de moi pour monter… mon environnement parfait et ma dream team. Et puis petit à petit, ça s'est fait en filtrant autour de moi parce que j'étais partie avec mon cheval en Espagne.
Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça. Après, tu as remonté le cheval parce que tu n'avais plus le temps.
Ouais, voilà, exactement. Ça, ouais. Quand j'ai pu, j'ai un peu écrémé avec le travail. Ouais. Quand j'ai pu, grâce à Nike, j'ai arrêté de travailler pour devenir athlète professionnel. Et donc, petit à petit, j'ai filtré, ce qui m'a amené aujourd'hui voilà, à être cinquième mondial. C'est pour ça qu'on parle de moi, mais il y a eu une histoire depuis 2015, il y a eu un cheminement.
Il n'y a pas de hasard, de toute façon. C'est des sports tellement difficiles qu'il n'y a pas de hasard.
Tu dois te professionnaliser toi-même quand tu étais hors structure et que tu n'as pas eu, comme moi, qui était pris en charge dès les catégories juniors avec après un détachement pour pouvoir m'entraîner dès les catégories espoirs. C'est vrai que c'est à toi de construire ton environnement et de mettre en place des gens autour en qui tu as confiance et en qui tu vas travailler pour pouvoir performer. Donc, que ça soit le préparateur physique, le kiné et tout ça, et l'entraîneur. C'est vrai que c'est ta démarche personnelle. Donc, effectivement, il faut trouver les gens autour pour s'accompagner et bien s'entourer.
Ouais, mais le point fort d'Alice, c'est qu'elle n'a pas eu à s'engager à l'armée et à courir avec des Rangers.
À se raser le crâne.
C'est ça. Non, mais en fait, j'aime bien qu'on parle de cet exemple-là parce que nous, on l'a senti, Johan, on a couru ensemble plusieurs fois, chacun de notre côté en Espagne. Il y a un environnement quand même en Espagne. Pour les courses de long, quand même, les courses sur route, il y a un savoir-faire, il y a une envie, un désir. Ouais, des Espagnols comme ça, justement, c'est une vraie passion,
une vraie ambiance,
le sport. Il y a le foot, évidemment, qui prend beaucoup de place, mais la course à pied a une vraie place, justement, dans le cœur des Espagnols. Et ça, tu dois le ressentir au quotidien. Je ne sais pas, j'imagine, l'accès au stade, aux infrastructures, un peu tout. Tu le ressens au quotidien ?
Alors, quand je suis arrivée en Espagne et que j'ai re-signé dans un club, moi, je voulais un entraîneur qui me prépare à faire des courses sur route.
Tu pensais passer sur les distances
Oui, okay. Moi, je faisais des courses de quartier quand j'ai repris le footing et le semi-marathon. C'était vraiment pour faire... course de quartier, le truc social, aller faire un barbecue et prendre une bière avec les potes à la fin, quoi.
Enfin, ouais, d'accord.
J'ai, avant d'être athlète de haut niveau, ce qu'on voit maintenant, j'étais quelqu'un de vivant, quoi.
Voilà. Et petit à petit, en fait.
Et en fait, je faisais ces courses où finalement je me retrouvais toujours sur un podium. Et puis il y a une émulation là-bas où ils mettent des prize money. Et donc, moi, ça me stimulait parce que les prize money, ça me faisait aussi arrondir mes fins de mois.
Ouais, c'est sûr.
Et on sent vraiment qu'il y avait énormément de courses. Donc déjà, tous les week-ends, ils invitaient beaucoup d'athlètes, etc. Alors que c'était vraiment régional, c'est local. Donc après, au niveau national, ça c'est ce qu'on connaît avec les courses comme Valence, Castellón, Barcelone. Mais c'est vrai que localement, il y a vraiment une émulation autour du sport et de la course à pied, qui est aussi un sport accessible à tous. Et suite à ça, le club m'a demandé, comme ils voyaient que j'étais plutôt aussi rapide, ils m'ont demandé, est-ce que tu peux te préparer sur 1500 mètres, 3000 mètres pour venir apporter des points à l'équivalent des interclubs là-bas, en fait. Okay. C'est les ligues. Donc, les ligues, il y en a trois par an. Et puis, dans ces ligues, en fait, je faisais les minima pour les championnats d'Espagne. Donc, j'allais aux championnats d'Espagne. Parce que les Espagnols, ils font ça bien. Ils s'arrangent que les étrangers ne passent pas en finale. Donc, même en championnat d'Espagne, je me qualifiais pour la finale.
Mais tu ne pouvais pas courir.
Mais je ne pouvais toujours pas courir à la finale. Et donc, j'étais frustrée. Et j'avais envie de me confronter aux meilleurs. Jusqu'à ce que j'atteigne les minima françaises, qui ont toujours été un peu plus durs. Donc, il m'a fallu un an de plus. Et à partir de là, j'ai commencé à courir en France et j'ai pu courir avec les meilleurs.
Bon, tu notes Aurélien, parce que là, il y a de bons exemples à prendre. Hein. Par exemple, tu n'as pas un Kenyan qui gagne le championnat de France de cross long.
Non, ça ne passe pas. Qui passe sur la photo devant le premier
Voilà, qui passe comme ça devant Michael Gray et qui lui bouffe la photo. Non, ça n'existe pas en Espagne.
Exactement.
Comment tu te fais connaître de la Fédé française alors ? Comment ça se passe ? Tu te dis quand même, quand tu vois ton niveau grimper, tu te dis, allez, je m'inscris, je prends contact avec eux, je veux participer au championnat de France ?
Bah non, je participe au championnat de France en 2018, pareil en 2019. Et puis en 2019, je fais un semi-marathon local encore en Espagne et je fais 1h15.09 et, ouais. Et encore un truc avec du dénivelé pas possible. Donc on se dit, ok, je vaux moins. Et on regarde les minima pour les semi-marathons, les championnats du monde de semi-marathon qui avaient lieu en 2020. Mmh. C'était 1h15. Donc on s'est dit, ben, on y va. Alors je prépare semi-marathon et je fais 1h13.28 en 2020.
23. À Barcelone.
Ouais, c'est ça.
Et il a bossé.
Il a la feuille devant les yeux.
même pas en plus. Ouais.
Et il y a eu la pandémie.
Boom.
Il y a eu le Covid.
16 février, ouais, dommage.
C'est ça. Ouais. Donc ma première sélection, en fait, j'ai été sélectionnée, je vois la sélection sortir. Donc c'était mon point d'entrée dans la fédération française. En fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on m'a considérée. Et cette même année, donc, le Covid finit par un peu s'estomper en été. Je me prépare sur le 3000 steeple. C'est la première fois où je fais championne de France de 3000 steeple l'été le 2020. Et ils avaient quand même reporté les championnats du monde qui allaient avoir lieu en novembre, octobre-novembre, ouais. Donc de semi-marathon. Et la fédération m'avait invité à mon premier stage équipe de France qui avait lieu à Font-Romeu. Et donc, c'était la même date que le semi-marathon.
Ah! Et là,
j'ai encore fait un choix fort. Ouais. Pour moi, je me suis dit, est-ce que je mets un pied dans la fédération, je vais me former avec eux, j'apprends l'altitude, etc. Ou est-ce que je vais faire ma première sélection? Et comme je venais de faire championne de France sur steeple, je me suis dit, ok, le coach, il a raison, c'est vrai que j'ai quand même quelque chose à jouer sur le steeple. Je pense que ma carrière, elle va plus se lancer sur la piste que d'aller tout de suite sur semi-marathon. Et en fait, j'avais cette conviction que le stage équipe de France allait plus m'apporter que cette première sélection. Donc, j'ai renoncé à ma première sélection pour partir en stage équipe de France. Mmh. Et on était en préparation hivernale. Et c'est vrai que février 2021, c'est là où j'explose sur 3000 mètres et que je fais vice-championne d'Europe sur 3000 mètres. Donc, encore une fois, je m'étais prouvé que mes choix forts m'avaient permis d'arriver là où je voulais. Et c'est là où j'ai lancé ma collaboration avec la Fédé et que je suis suivi et appuyé par eux depuis ces dates-là.
Ce qui est fou, c'est que, à t'entendre, peut-être que tu vas me contredire, mais au départ, tu n'as pas de préférence particulière pour une distance ou une autre. C'est-à-dire que là, tu t'es dit, je peux maximiser mon potentiel sur le 3000 steeple, donc je vais aller à fond là-dedans.
Mmh, exactement. Ouais. Et de plus en plus, maintenant, cette année, je me confirme de plus en plus que je suis une steepleuse.
Okay.
Que vraiment, c'est ma force.
Oui, 9-0.
Tu n'as pas besoin de te le confirmer.
Les qualités d'un steepleur, Yodu?
Il faut être capable de relancer, il faut avoir de la caisse, parce que malgré tout, c'est un effort. Tout à l'heure, je parlais de 9 minutes, mais c'est un effort assez qui n'est pas continu. Hein, c'est un effort qui demande pas mal de relance. Donc, il faut être fort musculairement pour encaisser les à-coups. Il faut être bon techniquement pour passer les barrières et perdre le moins d'énergie possible. Faut être bon tacticien. Et puis, du coup, tu es un peu sur tous les secteurs. Donc parce que, voilà, tu as besoin... Pour changer de rythme, faut quand même avoir un petit bagage de vitesse et avoir de cette explosivité-là. Pour passer les rivières, faut être technique. Et pour tenir l'enchaînement série finale et puis la distance de 3 km, faut quand même une bonne base d'endurance. Donc, c'est un peu l'épreuve qui allie un peu toutes les qualités. Faut être bon sur 1500, faut être bon sur 5000 et faut être bon technicien si tu veux être un vrai steepleur. Ouais.
Dans un instant, on rentrera d'ailleurs dans ton quotidien d'athlète, comment tu te prépares pour cette distance spécifique. Est-ce que tu as un regret pour les Jeux de Tokyo? Parce que est-ce que tu y as cru un moment? Est-ce que tu pouvais te qualifier? Est-ce que tu as été touché par une petite blessure, je crois?
Encore une fois, ça a été un choix fort qui montre que j'ai bien choisi. J'étais blessée, j'aurais pu forcer. Et aller aux Jeux de Tokyo, comme plusieurs personnes m'ont dit, les Jeux, c'est une fois dans une carrière, ça se reproduira peut-être pas, c'est ta chance. Et en fait, moi, je me voyais pas participer et me mettre sur une ligne de départ avec la douleur que j'avais. Je savais que les barrières et les rivières allaient augmenter cette blessure et sûrement l'empirer et faire que je reviendrais peut-être pas sur la piste. Et encore une fois, cette patience que j'ai eue, me montre que 3 ans après, en fait, je ne vais pas seulement participer à des Jeux Olympiques, mais je dois être en finale et je dois faire la meilleure place possible à Paris parce que je suis armée pour aujourd'hui, alors qu'à Tokyo, pas du tout.
Le contexte est un peu particulier parce qu'on savait que Paris était désignée ville hôte des Jeux Olympiques en 2024. Toi, tu es une fille ambitieuse. tu l'avais forcément dans un coin de ta tête
non.
dès que t'as. Ah non, même pas.
J'ai même pas pensé.
Ah, t'as même pas. Le fait que ce soit Paris, ça a pas eu d'incidence sur tes choix.
J'ai jamais pensé aux Jeux Olympiques et j'ai jamais fait tout converger pour les Jeux Olympiques.
Okay.
En fait, mon niveau tous les ans m'a fait me fixer des objectifs un peu plus ambitieux, toujours atteignables. Et ce qui fait que depuis 2 ans, je me dis ok, les Jeux, c'est quelque chose de sérieusement envisageable et on peut y faire quelque chose de bien. Mais l'année de Tokyo, je pensais à Tokyo. Et je savais que c'était une bonne décision de ne pas y aller parce que ça allait me permettre dans le futur d'avoir une plus longue carrière.
Ouais.
Alors que si je m'arrêtais à mes ambitions à court terme, elle pouvait mettre un coup à ma carrière.
Ça pouvait être préjudiciable
malheureusement,
pour
ouais,
la suite.
Bien sûr.
Ok. Aurélien, tu avais une question pour... Alice.
Ouais, sur ton statut, Alice, à venir, on l'a dit, il y a les Europes juste avant à Rome, juste avant les Jeux Olympiques. Tu as terminé première européenne l'année dernière. Imaginons que tout se passe merveilleusement, tu es championne d'Europe, sachant que l'athlète féminin en France va pas très bien en ce moment. Il y a Mélina Robert Michon qui dépasse un peu, mais les chances de médailles sont un peu plus compliquées. Dans ce cas-là, tu prendrais vraiment beaucoup de lumière. Est-ce que tu sortirais de l'anonymat pour le très grand public? Ça, c'est un truc qui t'excite ou ça t'inquiète un petit peu de devoir répondre à moi et à plein d'autres journalistes juste avant les Jeux?
Surtout lui.
Est-ce que je suis obligée de répondre?
Ah, ça serait bien, ça serait bien.
Non, c'est hyper excitant. Je le prends comme un défi. C'est pas forcément, ce serait quelque chose de nouveau, hein. Et puis, il va falloir apprendre à le gérer parce que derrière les Europes, en fait, on ne va pas faire la fête. On va se remobiliser et on va préparer les Jeux. Donc, on verra bien comment ça se passe. Et puis, je vais...
C'est pas un truc qui t'inquiète, en tout cas, d'avoir le feu des projecteurs sur toi, de représenter peut-être une chance française de médaille, alors qu'on n'en a pas beaucoup.
Bah, si ça m'inquiétait, j'irais pas, en fait. Si je suis là, c'est parce que tout ce que je vis, ça me fait plaisir et je l'accueille. Donc, non, il n'y a pas de souci.
C'est la chance, Yodu, de le vivre avec maturité aussi.
Bah oui, non, mais
alors,
c'est
quand
ça.
Quand ça arrive à un gamin de 20 ans, enfin, alors lui, c'est un phénomène, mais Léon Marchand, par exemple, qui a 20 ans, va porter tout le poids comme ça sur ses épaules pour la natation, c'est quelque chose. Alice, elle a plus
c'est
de
différent,
maturité.
Hein. C'est différent. Ouais. Ouais. Et puis, ils n'ont pas la même vie. Alice, elle a eu, comme elle l'a expliqué dans son histoire, elle a eu une vie avant l'athlée. Et c'est vrai que l'athlée, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Si on l'avait dit à 26 ans qu'elle allait être potentielle top 5 au JO en 2024, je pense qu'elle ne l'aurait pas cru. Donc effectivement, tu as un recul qui est différent par rapport à ça. Ouais.
Alice, comment on le vit au sein de l'équipe de France? Parce que là, tu vas partir en stage. Cette pression tout de même qu'il y a sur cette équipe de France d'athlée, c'est le sport roi des Jeux Olympiques. À chaque fois, on en parle, on se dit qu'est-ce qui va se passer. On est de plus en plus inquiet. On est à bloc pour savoir où Kevin Mayer va courir, va pouvoir être compétitif pour se qualifier parce qu'on se dit c'est peut-être le seul qui va nous ramener une médaille. Comment ça se vit à l'intérieur du groupe, toute cette pression alors?
C'est pas présent au quotidien, mais je pense que chaque athlète fait de son mieux avec les moyens qu'il a. Moi, de ce que je vois, c'est qu'on a des athlètes vraiment engagés. Vraiment, ouais, ils sont engagés. Peut-être un peu tard, hein. Des jeux, ça se prépare pas à 2 ans, hein, mais je pense que il y a des choses qu'il fallait montrer aussi avant, mais faute de moyens, faute de d'y croire aussi. Hein. En France, on se met des fausses barrières parfois. Non, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui y pense sérieusement et qui vont faire de leur mieux pour déjà y être. Et puis, il y a ceux qui savent déjà qu'ils y seront et qui travaillent sérieusement pour faire le meilleur résultat.
Tu y crois à l'effet à domicile? Le fait qu'on court chez nous, qu'il y ait le public qui soit à bloc derrière vous, ça peut jouer?
Ouais, c'est à double tranchant. Donc, il y a un stress qui va arriver à tout le monde. Il y a le bon stress et le mauvais stress. C'est un peu notre boulot aussi, on apprend à le gérer. Ça restera quand même nouveau. On est conscient que l'architecture du Stade de France est quand même est atypique. A priori, les vibrations, on va les sentir nous-mêmes sur la piste.
Piste violette, hein, d'ailleurs.
Comme ton pull.
Exactement. On verra ça.
Et moi, quand j'y pense, j'ai la chair de poule. En fait, j'ai hâte de sentir le public. J'ai hâte de vibrer avec eux. Je sais que faire une perf sur la piste où je m'entraîne, c'est pas la même chose que faire une perf le jour où je suis avec mes rivales et avec le public. Donc, je sais que c'est une force. Et on a hâte de courir à la maison. Premièrement, à la Diamond League de Charletti, ça va faire un premier bain. Et puis,
c'est début juillet. Hein.
C'est ça. Donc, un mois après, on aura les Jeux et ça permet de prendre contact avec le public français en hâte.
Bon, merci Alice. On passe tout de suite à la séance.
RMC, la séance.
Johan, j'espère que t'as bossé, mon grand.
Bah, c'est Alice qui va bosser.
Ah non, 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 tu te caches pas derrière notre invité. Le grand moment se rapproche, le week-end du 8-9 juin. Le stade Charletti, justement, un mois avant le meeting de Diamond League.
Et ouais, le stade, il aura été marqué au fer rouge par notre ambiance.
Le premier record du monde sera décroché. Le premier record du monde de l'année, parce qu'il y en a eu trois l'année dernière au meeting de Diamond League. RMC Running vous convie pour cette tentative donc de record du monde certifiée par le Guinness Book des records. Une course relais de 24 heures, 350 km à parcourir, donc une allure moyenne pendant tout le défi de 4,06 au kilomètre.
On va abîmer la piste pour aller. Ouais, on courra
la voir chauffer en tout cas. 144 coureurs concernés, parmi eux 24 champions. On vous les fait découvrir au compte-gouttes sur les réseaux sociaux. C'est un type d'effort particulier qui se rapproche du steep d'ailleurs, parce qu'on est sur une distance de 3000 mètres pour les bons coureurs, Johan. Comment préparer un tel effort ? Comment ceux qui vont découvrir leur nom dans la liste des personnalités retenues vont pouvoir se dire « Allez, là je me fais un plan d'entraînement pour arriver le plus costaud possible le jour J, le week-end du 8-9 juin. »
Bah, l'avantage, c'est que quand même, il reste du temps. Tu vois, c'est pas, on ne va pas leur dire de se préparer en 15 jours, 3 semaines. Là, il y aura quand même un mois et demi, presque 2 mois, pour, même plus de 2 mois pour bien se préparer. Donc ça laisse le temps à des coureurs qui ont plutôt l'habitude de faire des distances longues, semis, marathons, les choses comme ça, d'aller travailler un petit peu spécifiquement la vitesse pour ces coureurs-là, le 3000 mètres en l'occurrence, ou ce qui peut s'en rapprocher. Donc effectivement, il faut intégrer du travail de VMA, hein. C'est la base sur cet effort-là, parce que c'est un effort entre 9 et 12 minutes. Donc, tu es quand même sur un effort à 100% de VMA. C'est vraiment le moment où c'est l'allure course où ta consommation d'oxygène sera au maximum. Donc, travailler donc à VMA pendant le début de la préparation, essayer de développer au maximum sa VMA pendant 3 semaines, et derrière faire une période un petit peu plus d'affûtage avec des séances spécifiques 3000 mètres.
Tu peux nous donner des exemples de séances d'ailleurs ?
Des exemples de séances de VMA, ça va être par exemple du 12 x 400 mètres couru à 100% de VMA, ça c'est parfait. Les 400 mètres, c'est vraiment la séance bateau que tout le monde fait avec une récupération de 1 minute. Vous faites ça 12 fois, c'est vraiment la séance dite classique. Après, ça peut être des 300 mètres, ça peut être des 500 mètres, vous pouvez mixer. Il faut toujours que ça fasse un volume entre 4 et 5 km. Avec des
volume global de la séance.
Volume global de la séance, okay. De 4 à 5 km. Tu vois, 12 x 400 mètres, ça fait 4800 mètres de volume. Donc, effectivement, rester dans ces volumes-là, faire un petit peu de... Alors, l'autre axe important pour les coureurs, ça va être le travail de renforcement. Tout à l'heure, on parlait des qualité du stipleur, mais effectivement, ça va demander un petit travail d'explosivité, de force, les choses comme ça. Donc, ne pas hésiter à intégrer des côtes, à intégrer du renforcement musculaire, à intégrer progressivement. Hein, il ne faut pas passer de 0 séance de renforcement à 3 séances par semaine, mais intégrer ça dans son plan habituel, tout en maintenant ses footings en endurance fondamentale, son travail de seuil. Mais voilà, intégrer assez régulièrement les séances de VMA de ce type-là. Ouais.
Ça veut dire qu'il y a un risque de blessure qui augmente, malheureusement. Avec
le risque de blessure augmente, donc c'est pour ça que malgré tout, ça, il reste du temps, il reste 6-7 semaines. Donc tout à l'heure, je parlais de faire deux blocs, un premier bloc de développement de VMA de 3 semaines, une semaine de récupération, et après refaire de l'allure spécifique affûtage, ce qu'on appelle affûtage dans le jargon, où là, on va aller vraiment sur l'allure cible, et ça va être plus, 3 fois 1000 mètres à l'allure, presque à l'allure demandée pour le jour du record du monde. Ça, c'est ce type de séance. Avec un volume qui redescend, des récupérations qui s'allongent sur la période d'affûtage. On a fait un épisode sur les récupérations, mais sur le coup, dans les dernières semaines de préparation, on augmente l'intensité, on augmente la vitesse de course, mais on allonge aussi la récupération entre les séries pour pouvoir bien récupérer. Donc effectivement, là, c'est du 3 x 1000, du 8 x 500 mètres, des choses comme ça. Mais là, pour le coup, couru vraiment à allure intensité cible du jour J. Ouais.
Et on vous donnera des exemples de séances, d'ailleurs, hein, si vous voulez vous entraîner et être prêt le jour J. Alice, est-ce que tu as des conseils comme ça à donner à ceux qui vont se préparer ? Est-ce qu'on peut avoir une semaine type, par exemple ? Là, tu pars en Afrique du Sud ce soir, une semaine type de travail pour toi ?
Il faut qu'ils s'entraînent 12 fois semaine déjà.
Est-ce que tout est calé déjà ? Est-ce que quoi qu'il arrive, tu connais tes entraînements, ce que tu vas faire exactement ?
Oui, à peu près. Comment ça se passe ? J'ai des semaines entre 100 et 110 km. On va dire qu'il y a 60% de footing,
okay.
20% de piste, 20% de préparation physique et muscu.
Les 20% de piste, c'est que de la qualité, c'est que de l'allure spé.
Ouais, alors il y a trois pistes par semaine. Sur ces pistes-là, je réfléchis au plan là qu'on a calé la semaine dernière. À chaque fois, on va toucher des rythmes différents sur des volumes différents. Donc forcément, le plus gros volume, il va toucher mon rythme de compétition. On va mettre un peu de peps sur des répétitions plus courtes. Et puis, on va faire quelque chose plus en VMA avec des barrières. Il y aura toujours des barrières, de la technique de haie une fois par semaine. Là, on va faire du franchissement de rivière petit à petit avec l'herbe derrière, le bac à sable, puis la rivière va arriver. Donc, pour faire une augmentation des contraintes, vraiment progressive. Donc, tout ça, c'est progressif hein, avant de faire une semaine comme ça. Il y a énormément d'ingrédients dans le stiple, donc il faut toucher à tout et on peut pas tout mettre au même moment. Donc pensez pas qu'à chaque fois que je m'entraîne, je fais un 3000 mètres.
Non, bien sûr. Non, mais le renfort musculaire fait partie intégrante de ton plan. C'est-à-dire que c'est une base non négligeable, c'est obligatoire pour une distance pareille.
Exactement. Je fais deux muscu par semaine plus deux renforts au poids du corps.
Comment elles sont placées, les muscu, elles sont placées les jours de récupération?
Alors les muscu, elles sont placées juste avant une séance piste. Donc ça veut dire que je vais en muscu, c'est des blocs de 3 heures à peu près. Je vais en muscu et je sors de la muscu, je vais faire une piste. Donc c'est un transfert.
Okay.
C'est assez lourd, hein, mais le jour où vous enlevez la muscu, vous courez quand même vachement mieux.
Ouais, c'est sûr. Et puis comme ça, t'as le lendemain pour récupérer totalement de ta journée marathon, entre guillemets, quoi.
Le lendemain, c'est aérobie, quoi.
Voilà, c'est plus cool, une allure plus facile pour toi. Et juste un exemple de fractio court, une séance comme ça qui te vient en tête, qui peut nous faire peur. Est-ce que tu l'as en tête?
Court, qu'est-ce que j'ai comme court? Je vais avoir 15 fois 300 en 49 secondes, récup, comme on est en altitude, je crois qu'il m'a laissé la récup une 30 ou 2 minutes. Alors il faut savoir que voilà, l'altitude c'est quand même quelque chose
c'est sûr.
Où il faut faire attention, et ce que nous on va faire, c'est qu'on va ouvrir les récupérations. C'est pour ça que je choisis l'Afrique du Sud. C'est une altitude qui me permet de travailler les rythmes de compétition. Alors, mes rythmes, il faut qu'ils soient autour de 3,05 au 1000. Quand je suis à 2000 mètres d'altitude, je ne suis pas forcément capable de faire le volume de la séance à ce rythme-là. Par contre, à 1400 mètres en Afrique du Sud, c'est ce qu'on est capable de faire. Mais il y a toujours un manque d'air. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre les récupérations.
Qui sont les athlètes qui seront avec toi en Afrique du Sud, d'ailleurs? Tu sais déjà?
La fédération a emmené. Alors, sur ma distance, il n'y a personne. Il y aura Aurore Fleury sur 1500 mètres et la plupart des athlètes, elles sont sur 800 mètres. Donc, on a tout le gratin français sur 800 mètres féminin. Et sinon, au niveau des entraînements, tout ce qui est piste, tout ce qui est. Il y a 80% que je peux me greffer au reste. Hein, parce que la muscu, on peut le faire ensemble, l'aérobie, on peut le faire ensemble. Par contre, tout ce qui est piste spécifique, là, je vais devoir me retrouver toute seule et puis prendre un lièvre en vélo.
Voilà, donc au moins pour avoir une allure régulière.
Oui, exactement.
Le lièvre, c'est...
Le vélo, c'est essentiel, surtout dans ces allures-là où tu veux vraiment pousser la machine. Des fois, on parle souvent d'entraînements sous contrôle qui doivent être contrôlés. Donc là, tu n'as pas forcément besoin de pace pour faire le tempo. Mais effectivement, là, on est sur des allures poussées. On est à 100% de la VMA ou même des fois plus vite. Donc effectivement, c'est bien d'avoir quelqu'un pour vous mettre le tempo, vous caler derrière et vous avez juste à suivre. Et c'est vrai que ça aide beaucoup, ça coupe du vent, ça permet quand même de pousser vraiment la machine dans les retranchements.
Et Aurélien, le choix de l'Afrique du Sud, ça a été fait par la Fédé et ça fait plusieurs mois désormais que les athlètes vont s'entraîner là-bas.
Ouais, ça fait un moment, c'était le stage même équipe de France quasi au complet au mois de décembre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ça devait avoir lieu à La Réunion. Il y avait un partenariat qui avait été signé il y a quelques années pour qu'en année olympique, ça se passe à La Réunion. Malheureusement, il n'y a pas assez de matos pour accueillir toutes les disciplines et tous les athlètes français en même temps à La Réunion. Donc, c'est Potchefstroom, c'est l'Afrique du Sud, c'est une valeur sûre en termes d'altitude, d'infrastructure et de climat. Donc c'est vrai que souvent, Potchefstroom et l'Afrique du Sud, c'est la destination des Bleus.
Alice, on s'ennuie pas le soir à Potchefstroom? Qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs? Comment on occupe ces soirées?
Il y a des coupures de Wi-Fi et de courant d'ailleurs, je crois.
Super.
Ça arrive souvent, ça.
Ouais, au Sport Village, là où on est, c'est un hôtel, donc il y a des générateurs qui reprennent le relais. Par contre, si vous louez un appartement ou quelque chose en extérieur, effectivement, il y a des coupures. Moi, c'était mon cas quand je suis allée à l'Adelstrom l'année dernière. Et puis, au début, on râle. Et puis, finalement, on ne trouve pas ça gênant de... Ben, tout le monde, le monde est ralenti au même moment, donc on s'y fait. De toute façon, on n'est pas là-bas pour faire autre chose que s'entraîner, récupérer, bien manger. Donc on s'habitue à tout. La nuit tombe tôt. C'est vrai que là, en ce moment, on a les journées qui rallongent en Europe. C'est quand même agréable, on va vers le mieux. Et ben, l'Afrique du Sud, c'est le contraire.
C'est ça.
À 6h, il fait nuit.
Ouais, c'est ça.
Et puis, eux, ils vont vers l'hiver. Donc, on est sur des températures de 22, 23, 25 degrés. Mais c'est vrai que plus on entre dans mai, plus on va rentrer dans l'hiver pour eux. Donc on va à sens inverse.
Bon, bah ça va, tu pars avec la doudoune quand même, on sait jamais. Ouais. Allez, justement, passons tout de suite au bon plan matos.
RMC, le bon plan matos.
Et on part à la découverte d'une marque spécialisée dans les vêtements et accessoires chauffants et rafraîchissants.
Parfait.
Ouais, magnifique. Toi, ça peut te plaire. Leader français des vêtements chauffants et rafraîchissants, donc les gants, les vestes, les serviettes. On va en parler avec Nicolas Roux, qui est chef de produit chez la marque G-Head. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'être là dans RMC Running. Bon, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter cette marque G-Heat du coup?
Alors, normalement, il y a ma responsable marketing qui devrait être présente aussi, qui sera plus à même de vous présenter vraiment la marque. Moi, j'aborderai plutôt la partie produit pour le coup, avec les technologies qu'on peut proposer sur des produits pour adapter pour le sport notamment.
Et bah parfait. On accueille donc Virginie Morin qui est là, directrice marketing. Bonjour Virginie.
Oui, bonjour à tous.
Bon, vous avez bien raison, chacun son rôle. Nous, on a le coach, l'intervieweur et l'athlète. Vous avez donc la directrice et le spécialiste produit. Virginie, est-ce que vous pouvez nous résumer G-Heat en quelques mots alors?
Ben oui, avec plaisir. Ben écoutez, G-Heat, c'est effectivement la marque référente en vêtements et accessoires chauffants et rafraîchissants. Donc on a effectivement toute une panoplie de produits que Nicolas va vous présenter. Là, on s'approche de l'été, on parle déjà de canicule. Donc c'est vrai qu'on voit de plus en plus le besoin d'avoir un équipement adéquat, qu'on soit sportif ou pas d'ailleurs. Donc notre mission, c'est effectivement d'apporter cette solution de confort et aussi de support donc à la performance pour les athlètes, mais aussi pour tout ce qu'on appelle nous les héros du quotidien, parce qu'on aime bien dire que finalement, tout à chacun, on a tous des degrés de résistance au froid ou au chaud qui sont différents. Moi perso, en dessous de 10 degrés, j'ai froid, et au-dessus de 30 degrés, je n'en peux plus, donc équipons-nous.
Ah oui, c'est vrai, bon, en dessous de 10 degrés, c'est supportable quand même, Virginie, là, c'est...
Bah, ça dépend d'où vous venez, mais quand vous habitez dans des pays chauds, vous arrivez au Canada, sûr. Ça dépend. Ouais.
Alice qui vit en Espagne, oui, c'est vrai qu'en dessous de 10 degrés, elle ne doit pas être trop
voilà.
Habituée. Allons-y sur les produits, du coup, avec vous, Nicolas, parce que nous, on s'adresse aux sportifs, on s'adresse aux runners notamment. Les beaux jours arrivent en France, on est ravis, mais on sait qu'il va faire très chaud. On pense notamment à tous ceux qui vont préparer le marathon pour tous,
ouais.
Dans le mois d'août. Il y a des produits qui sont faits exprès, notamment des t-shirts et des serviettes rafraîchissantes. Comment ça fonctionne alors, Nicolas ?
Alors aujourd'hui, effectivement, le produit qui serait peut-être le plus adapté à la pratique du sport sont ces deux produits. Historiquement, c'est notre serviette qui a vraiment annoncé et mis sur le marché cette technologie. C'est une technologie qu'on appelle JadCool. C'est un t-shirt qui est fabriqué avec une matière polyester, donc une matière qui est connue de la plupart des coureurs, bien évidemment, mais qui a la particularité d'intégrer dans sa matière des cristaux de jade, qui est une pierre précieuse, qu'on peut dire, en petite quantité. Et le fait d'intégrer ce composé-là à l'intérieur même de la fibre de polyester, donc c'est vraiment un mariage intime, c'est pas un traitement de surface qui va partir avec le temps. On arrive à obtenir une dissipation de la chaleur qui est un petit peu plus rapide que la capacité de la matière à l'emmagasiner. Donc il faut imaginer que voilà, quand le corps est en effort, il produit de la chaleur. Il y a toujours cette problématique d'avoir des produits qui sont ventilés et qui vont aider le sportif, entre autres, à baisser en température. Aujourd'hui, cette matière-là va avoir cet effet-là, d'emmagasiner et de dissiper la chaleur relativement rapidement. Et qu'est-ce que ça provoque, notamment en termes de ressenti et aussi en termes de réellement de température? On a un produit qui va créer un léger gradient de température à la surface de la peau. Et avec les capteurs thermiques qu'on a sur la peau, on va avoir cette sensation de fraîcheur qui va être amenée. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Aujourd'hui, pour que ce produit fonctionne, il faut qu'il soit humide. Donc, soit on l'humidifie avec de l'eau, soit c'est simplement avec la transpiration qui vient mouiller son t-shirt. On va avoir cet effet-là qui va se mettre en route. Et aujourd'hui, par exemple, quand on fait cet essai-là sur une serviette dans une ambiance à entre 20 et 25 degrés Celsius, on mouille ce produit-là, on mouille cette matière, on enlève l'excédent d'eau et on va dire en l'espace d'une quinzaine, d'une vingtaine de secondes, on a une température qui est quasiment 10 degrés inférieure à la température ambiante, et ce qui fait qu'on a cette sensation de fraîcheur qui est rapide et facile à obtenir avec le fait de mouiller la matière.
Et ouais, Johan,
voilà comment SKS en fonctionne.
Quand tu es dans ta salle de sport sur ton vélo comme ça, à pédaler, que tu es en transpiration, tu as plongé ta serviette dans l'eau, tu les sors, tu la mets autour de ton cou et là, ça te rafraîchit direct.
T'es prêt.
Et voilà.
Exactement.
Impressionnant.
Et justement, voilà, aujourd'hui, on décline ce principe sur deux produits essentiellement. La serviette, alors on a pas, vous en parlez, la fameuse salle de gym où on a besoin de s'essuyer, on a besoin d'apporter de la fraîcheur, on n'a pas forcément une serviette tout le temps sur soi. Et ben, on a des petites serviettes de petite taille qu'on peut se mettre soit sur la tête, soit autour du cou. Et l'avantage, c'est que dès que cette serviette est sèche, on vient la remouiller et on est reparti pour un tour avec la fonctionnalité du produit.
Combien ça coûte ? Tout ça, Nicolas.
Alors aujourd'hui, sur une petite serviette, on est à peu près à 14,90€ sur ce produit-là. Sur le t-shirt, on sera forcément un petit peu plus cher. Mais globalement, voilà, on est sous les. J'ai plus le prix exact. C'est un produit qui va sortir cette année.
On mais voilà, 34,90€.
Une serviette petit format.
Ah, bravo Virginie.
34,90€. Merci Virginie.
Et on peut se sécher avec la serviette.
Et 14. Oui, mais c'est pas. C'est pas étant donné que pour qu'elle soit active, il faut qu'elle soit mouillée, on va avoir du mal à sécher avec un produit déjà humide. Voilà.
Ah, voilà.
Mais en tout cas, voilà, on utilise strictement la même technologie, que ça soit sur la serviette ou sur le t-shirt. Et voilà, aujourd'hui, nous, on essaye d'apporter des choses qui soient au maximum, avec un maximum de ressenti sur les utilisateurs de ce produit-là. Donc on développe les produits. Moi-même, ça fait un peu le lien avec ce qu'on écoutait juste avant. Je fais pas mal de courses à pied. Je viens tester ces produits-là pour m'assurer que quand on utilise le produit, on ait ce ressenti-là. Donc c'est extrêmement important de passer par cette phase de test. Donc aujourd'hui, on fait nos produits, on les teste sur le terrain dans des conditions de chaleur relativement importantes. On les fait tester aussi à d'autres gens, à des partenaires, à des ambassadeurs de la marque, etc., qui vont aussi, bien entendu, valider le principe et le fonctionnement du produit.
Et tu vois, Johan, quand tu seras chez toi à Bergerac, tu trempes le t-shirt dans la Dordogne, tu le mets sur toi, et puis après, tu peux courir.
Je le trempe dans le Mont Basiliac, comme ça, je l'essors, je bois le Mont Basiliac, et en plus, je suis
problème, c'est l'odeur, après, l'odeur du Mont Basiliac.
Non, mais il faut bien comprendre, parce que quand on dit on le trempe, on imagine un produit qui est mouillé, qui est lourd. En fait, ce n'est pas du tout le cas, et c'est pour ça que c'est assez bluffant. Il faut le tester pour le croire, que ce soit la serviette, le t-shirt, tout ce qui est avec cette technologie Jade Cool. Vous le trempez, vous le gardez sur vous pendant des heures, ça peut rester frais 15-20 heures. Et c'est pas lourd en fait. Et donc c'est souvent ça aussi qui est reporté par nos sportifs, c'est qu'ils s'attendaient pas à ce que le tissu reste aussi léger.
Et voilà.
Et
c'est
effectivement, on travaille avec pas mal de sportifs, Lola Barraud qui est la championne de France de beach tennis notamment, avec qui nous sommes partenaires officiels du coup avec la FFT beach tennis. Et donc voilà, on teste tout ça avec eux et c'est vrai que c'est assez bluffant. Je vous invite tous à le tester, à nous donner vos avis.
Et justement, Virginie, où est-ce que ça s'achète? Où est-ce que ça se retrouve?
Bah, alors ça c'est une bonne question. Bah, écoutez, notre site internet. Bien sûr, hein, donc j-hit.com, ça c'est peut-être la première solution, vous pouvez être livré en 24-48 heures, on est hyper rapide, tout le stock est basé en France, ça c'est important de le dire, toute la conception aussi est française, donc encore une fois on est français, on est fiers de l'être, donc n'hésitez pas. Après on a aussi un réseau de revendeurs, vous pouvez trouver certains de nos produits sur Decathlon notamment, voilà, on est chez tous les bons réseaux distributeurs sportifs de France.
Bon, merci beaucoup, je précise l'orthographe pour ceux qui veulent chercher, c'est un G, donc un G majuscule, avec hit comme le Miami Heat, hein. H-E-A-T. Voilà. Ah, c'est pas hit comme le hit machine, mon vieux.
Ok.
Voilà. Ah, tu vois,
moi, j'avais même pas mis le H.
Avec les comment
IT. IT, 2TE.
Non, fait bien de le
préciser. Après, vous nous trouverez quand même. On a une bonne référence sur Google. Vous nous trouverez même avec IT.
C'est toujours mieux de taper le bon nom, du coup. Et bon, je vous remercie à tous les deux d'avoir été là. Du coup, je précise qu'on fait gagner en deux exemplaires, donc un pack t-shirt et serviette. Voilà, magnifique. Ouais. Les beaux jours arrivent, n'hésitez pas si vous voulez participer. Vous allez sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur le club RMC Running, sur Strava. Et donc, vous participez, vous tentez votre chance. On va faire un test d'écoute sur Alice. Qu'est-ce qu'on fait comme test d'écoute sur Alice, Yodu?
Où est-ce qu'elle habite en Espagne?
Ouais, est-ce qu'on l'a dit, la ville?
Ça, oui.
Je suis pas sûr qu'on ait dit la ville. Si. Ah, Aurélien, il a dit. Aurélien Tiercin l'a dit tout à l'heure. Il l'a dit. Et ouais. Et voilà. Donc vous avez le test d'écoute. Répondez-y et vous pouvez participer au tirage au sort. Merci Virginie, merci Nicolas. À bientôt dans RMC Running.
Merci. Merci à vous.
Merci à vous.
Et un grand merci à Alice Fino qui est venue avec son sac puisqu'elle part ce soir en Afrique du Sud. Ça y est, la grande aventure des Jeux commence. Bah, nous, tout ce qu'on te souhaite, c'est de perfer, de faire une bonne prépa et de nous faire rêver aux Jeux Olympiques. T'as la date d'ailleurs de ta finale ? Tu sais quand est-ce que ça sera ?
Le 6, mardi 6 août.
Mardi 6 août. Ouais, tu sais qu'on y sera avec Aurélien. D'après-midi. Aurélien sera en tribune, moi je serai en bord de piste hein, pour t'accueillir après ta médaille.
Super.
Donc voilà, on sera là. Priorité RMC, j'espère.
Voilà.
Voilà, la radio officielle des Jeux Olympiques. Merci beaucoup Alice de t'être rendue disponible et d'être venue dans RMC Running. Merci à toi coach Oyodu. Et le choix musical a été fait par Geoffrey Charpie, notre producteur, qui a très mauvais goût, donc j'espère que ça va être oui. pas mal. Qu'est-ce
il
qu'il a choisi
par avance,
ah,
pense.
Il a choisi Sean ou La Rivière. Oui, le steeple, tout ça, c'est la rivière.
Je connais pas du tout.
Tu connais pas ça ?
Non.
Ah si, quand même, un peu.
Mais c'est une chanson pour les 7-8 ans ?
Non, mais c'est la rivière, le steeple, tu vois. Après la haie, la rivière. Voilà, regarde, il a honte, il met les mains sur sa tête. Bon, en tout cas, merci à tous. Merci Aurélien Tersan d'avoir été là, merci Aurèle. Merci à Alice une nouvelle fois. Merci Odu. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. Quand tu as mes côtés, moi je l'ai passé, vitesse. Et l'espace attend nous contrôle pour faire des mauvais gestes. Je vais pleurer un océan pour que tu sois ma princesse.